Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission qui aime le rock, le jazz et le roman noir.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Au sommaire de cette émission, dans une première partie, on va vous parler d'une collection qui se ressape un petit peu, qui se restructure un petit peu, puis d'un bon roman. Vous allez voir qu'il y a des petites relations entre tous ces romans. Et puis, dans une deuxième partie, ce sera donc une interview qui a été enregistrée à Quai du Polar, qui a eu lieu le week-end dernier à Lyon. Et nous aurons le très grand plaisir d'interviewer un auteur américain, Todd Robinson, pour un roman récemment paru aux éditions Gallmeister. Les éditions qui se relookent un petit peu, mais c'est pas que relooké, c'est pas de l'extérieur, c'est beaucoup de l'intérieur, c'est la collection Seuil Policier, évidemment aux éditions du Seuil. On avait depuis très longtemps l'habitude de leur couverture et l'habitude de certains de leurs auteurs qui revenaient, comme Henning Mankell avec ses enquêtes suédoises, et puis jusqu'à Jonathan Kellerman, je dirais des romans policiers assez classiques. Et puis, plus récemment, un petit peu sous la houlette de Marie-Caroline Aubert, qui reste directrice de collection de Cadre Noir, bien, on avait vu apparaître des
Car
romans...
Cadre Noir, c'est le nom de la nouvelle collection.
Voilà, je ne l'ai pas encore dit. Ah non, pardon. Donc, c'est Cadre Noir qui remplace donc Seuil Policier. Et donc, on avait des auteurs, Sam Millar, Don Winslow, qui avaient donné une tonalité beaucoup plus noire, justement, à cette collection. Et donc, maintenant, Cadre Noir va cadrer une collection d'auteurs français. La direction en a été confiée à Gwenaëlle Denoyer. Et le domaine étranger reste aux mains de Marie-Caroline Aubert. Et on peut parier qu'à l'aune des excellents premiers titres, cette collection va nous offrir quelques beaux plaisirs de lecture. À commencer par Récit d'un avocat, qui est donc le premier roman d'Antoine Bréa. Un narrateur, c'est pas très difficile de deviner sa profession, Jacques.
Il est avocat.
Merci.
Tout comme
beaucoup.
L'auteur, probablement.
On peut penser, oui, on ne l'a pas encore rencontré. Donc, ce narrateur, on va le voir s'enfoncer, s'enliser dans la nasse d'une histoire qui le dépasse complètement. Et ça va aller jusqu'au désespoir le plus complet. Malgré que, enfin, on ne dit pas malgré que d'ailleurs, bien que ce désespoir, il l'avait déjà bien ancré en lui, et les désenchantements étaient nombreux. Au début de l'histoire, il s'agit juste de rendre service à Madame H et d'aider Ahmet A. Ahmet A, c'est un Kurde qui, des années plus tôt, avec la complicité de son cousin, a sauvagement assassiné Annie B. Des années plus tard, maintenant, on en est à parler de sa libération anticipée, mais pour lui, ça signifie juste la mort, car il va être extradé et au pays, il est condamné à mort. L'avocat, dont on ne saura jamais le nom, au terme d'un délicieux déjeuner arrosé de chasse-pline offert par Madame H et son mari, accepte finalement de s'occuper du dossier. L'histoire, ça va être comment cet homme, je cite, si médiocrement doué d'empathie, va-t-il cheminer dans les tortueux chemins du mal et de l'horreur? Comment cette machine judiciaire, qu'on connaît, qu'elle se revendique juste aveugle, peut-elle amener des êtres humains à gérer ces situations juste inextricables, juste impensables? Et ça, tant pour les victimes que pour les bourreaux. Et finalement, entre les deux, où est la frontière? Ça, c'est un des thèmes qu'on connaît récurrent du roman noir. C'est aussi vrai, ces situations impensables pour les professionnels. Ce roman, c'est un court récit. Il doit faire à peu près 150 pages. C'est dense, âpre, servi par une narration qui oscille entre la sécheresse qui va très bien à des actes judiciaires. Je vous citais les noms tout à l'heure. Cette déshumanisation en nommant les protagonistes juste par l'initiale de leur nom de famille.
En majuscule, cependant.
Certes. Et puis, il y a des moments ronds et ronflants, un langage châtié, des tournures emphatiques. en gros les termes d'une caste privilégiée, la magistrature. Si lointaine cette magistrature des tourments du peuple kurde. Ce texte, récit d'un avocat, c'est un texte totalement glaçant, implacable, sur, je cite l'auteur, le morne désespoir du quotidien. Mais aussi sur le monde, comme il ne va pas, comme il est juste insupportable. Le monde actuel, c'est une belle vision, c'est dur de dire ça, puisque c'est pas un beau monde qu'il nous décrit, mais c'est une vision très intéressante du monde d'aujourd'hui. Sans effet de manche, sans surenchère. Sans surenchère en particulier, Antoine Bréa a une jolie expression, d'une littérature qui fasse violente impression. Il parle certainement de certains polars qu'on ne goûte guère ici à la Noiraude. Cet auteur, en tout cas, il réussit à nous happer de la première à la dernière ligne, à nous émouvoir, à nous interpeller. Donc, c'est juste un roman indispensable. Deuxième roman qui vient de sortir en même temps dans cette collection Cadre Noir.
On passe dans le domaine étranger, en quelque sorte.
Voilà, dans un genre totalement différent. Un texte intitulé « Petite sœur la noire ».
La mort.
Ah oui, pardon. Je voulais dire que c'était un roman totalement noir. C'est donc « Petite sœur la mort », texte très noir aussi, un texte de William Gay, qui était un des plus brillants représentants du Southern Gothic, des textes américains qui mêlent fantastique, noirceur sociale, détresse humaine.
Dans le sud des États-Unis.
Voilà,
tout très ça, souvent.
Très très souvent. On peut se demander au début de ce roman si le personnage principal, c'est David Binder, l'écrivain qui s'installe dans une ancienne demeure à la très très mauvaise réputation. Là, on est au 21e siècle. Ou bien, peut-être que le personnage, c'est tout simplement la maison et les nombreux drames, compréhensibles ou très mystérieux, qui s'y sont déroulés à différentes époques. Mais peut-être l'héroïne, c'est tout simplement la dame qui hante les lieux, qui apparaît, qui disparaît, à toutes les périodes. Et surtout, qui fait remonter à la surface, en tout temps, la solitude, les tourments de certaines âmes. Ainsi, l'on reviendra dans les années 30, où la crise, la misère, le racisme ont obligé la famille Suo, à emménager dans cette maison construite par Jacob Bill à la fin du 19e siècle. Et ça, c'est un autre récit qui va nous l'apprendre, cette partie d'histoire fin du 19e. C'est un extrait d'un ouvrage qui serait de J.R. Lipscomb. Ici, le ton change, on se veut condescendant avec les pauvres, les nègres. Souvenons-nous qu'on est encore à l'esclavage. Et trêve, mais vraiment trêve avec les plus riches. Tous ces fantômes qui se mêlent, 19e siècle, 1930, plus récemment, ça va complètement faire chavirer l'esprit très embrouillé de David Binder. À moins que ce ne soit un esprit vengeur. Ou bien encore, ça c'est très subtil dans la narration de William Gay, parce qu'il se met quand même un petit peu en scène, c'est peut-être tout simplement les affres d'un auteur devant des pages vides. Le récit de l'écrivain américain est vraiment, vraiment virtuose. Sa vie revolte entre les narrations, les époques, les personnages multiples, les nantis, les faibles, les miséreux. Les maléfices peuvent certes être surnaturels, mais s'abattent aussi et surtout, quelle que soit l'époque, sous des formes bien humaines de cruauté et de pouvoir sur les plus faibles et les plus démunis. On lit donc une fable, certes, un roman tiré du fantastique, mais les personnages, eux, sont bien ancrés dans une réalité sociale que la plume de William Gay aime à pourfendre et vilipender. En gardant envers chacun, je précise bien envers chacun, les nantis comme les plus pauvres, un regard bienveillant. Et ça, ça donne un style très particulier à la prose de William Gay. Et c'est juste, juste formidable. Voilà, je me rends compte que j'ai oublié de citer l'excellent traducteur de ce texte, c'est Jean-Paul Gracias. Donc ce texte, je vais enfin le dire bien, il s'appelle « Petite sœur la mort ». L'auteur en est William Gay, c'est donc paru dans cette nouvelle collection. Cette collection, Cadre noir au seuil, et je redonne le titre du premier roman dont j'ai parlé, Récit d'un avocat. L'auteur en est Antoine Bréa. Même collection. Jacques va maintenant nous parler du morceau de musique que l'on va écouter pour illustrer le texte de William Gay et nous parler ensuite d'un roman.
Bon, ben, puisque Corinne vous parlait d'un roman qu'on appelle Southern Gothic, on va écouter de la musique qu'on appelle aussi Southern Gothic. C'est un genre de country assez sombre avec un de leurs chantres qui s'appelle Jim White. Oui, c'est sûr, pour chanter du sombre, c'est un peu étrange. La chanson que nous allons écouter s'appelle Crash Into the Sun. Il est extrait d'un album de 2007 qui s'appelle Transnormal Skipperoo. Jim White. Après cette musique de Jim White, nous allons partir en Afrique noire. Bon, ok, c'est un peu limite comme joke, surtout que de nos jours, on aurait plutôt tendance à dire Afrique subsaharienne. Bref, je vais vous parler d'un polar africain, un roman de Janice Otsiemi, qui est lui aussi paru dans une nouvelle collection, la collection 109 chez Plon. Le roman s'appelle « Tu ne perds rien pour attendre ». Il est écrit en français, comme les précédents romans d'Otsiemi. Il n'y a donc pas de traducteur. Ce roman met en scène, essentiellement, Jean-Marc Osavou. C'est un lieutenant de la sûreté urbaine de Libreville, qui est, je le rappelle, la capitale du Gabon. Otsiemi est Gabon. Donc, Jean-Marc Osavou a longtemps été flic à la PJ, et il a fini par la quitter pour s'occuper d'affaires plus tranquilles. Mais aussi pour s'éloigner de ses collègues corrompus jusqu'à l'os. Et encore, pour attendre, et surtout d'ailleurs en fait, pour attendre l'heure de la vengeance. La vengeance qui lui permettra de punir à sa manière le chauffard qui, il y a des années, a tué sa mère et sa sœur. Au début du roman, en rentrant du boulot un soir, il lève une jeune femme sur le bord de la route. j'utilise sa propre expression. Et il la ramène chez elle, malgré tout, en toute innocence. Le lendemain, alors qu'il cherche à la revoir, il apprend qu'elle est morte, assassinée, depuis 2 ans. Un crime impuni, un fantôme, parce que c'est bel et bien un fantôme, a priori, il n'y a eu personne dans sa voiture. Et du coup, le souvenir de sa sœur remonte à la surface, et il se jure de découvrir le meurtrier. Il est à la sûreté urbaine, le chef d'une petite équipe, et cette petite équipe va le suivre et le soutenir dans sa démarche. Janis Otiemi a changé d'éditeur pour passer chez Plomb, mais il continue dans ses romans, ses chroniques du Gabon actuel. À travers ses enquêtes policières, il nous raconte la vie dans son pays, son quotidien, avec les bons côtés, la solidarité chez les petites gens, les bouffes épicées entre amis, entre collègues, dans les restaurants ou dans de petits boui-boui sympas. Il nous raconte aussi les belles femmes que l'on croise, que l'on mate, que l'on aime. Il aime beaucoup les femmes Otiemi et ses protagonistes aussi. Il nous raconte aussi les soirées avec les copains à boire des doubles mazouts. Vous verrez ce que c'est si vous lisez le livre, dans un troquet. Il y a aussi qui apparaît, ce sont les vieilles croyances, les vieilles superstitions qui perdurent. Le maraboutage est toujours de mise au Gabon. Mais c'est surtout les mauvais côtés de son pays que son récit fait ressortir. Son roman noir nous raconte la société dans ses aspects les moins reluisants. La corruption institutionnalisée, les trafics de toutes sortes, le délabrement des institutions, là aussi, aussi bien les bâtiments institutionnels que le personnel qui vit et qui travaille dans ces bâtiments, et aussi les luttes intestines entre les différentes forces de l'ordre, le racisme latent envers les ressortissants des autres pays de la région qui sont assez méprisés. Fait nouveau et assez intéressant dans ce roman, les flics d'Otiemi auront affaire à une sorte de Corsica Connection, des mafieux corses installés depuis des lustres et des lustres en Afrique, qui vont de nos jours diversifier leurs économies parallèles. Ils vont passer des très classiques alcool, jeux, filles, pour du bien plus lucratif, le trafic de drogue. Et ce, c'est ça qui est intéressant aussi, avec la bénédiction, voire même la protection de certaines des plus hautes autorités de ce pays. Dans cet opus, Otiemi a gardé ce qui fait son style, c'est sa gouaille, son écriture si particulière, où les expressions locales très colorées viennent percuter la langue française. Par exemple, on va au Michelin pour faire gonfler ses pneus, et l'obstination et la persévérance de quelqu'un devient très joliment de la têtutesse. S'il garde son style, comme je le disais, son écriture, par contre, elle, s'est affinée, affirmée même. Même son intrigue, elle, est resserrée, bien plus resserrée que dans ses précédents ouvrages. Il abandonne l'enquête multiple qu'il avait parfois un peu de mal à mener de façon très vraisemblable jusqu'au bout. Ici, une seule histoire sert de trame à son récit, même si, bien sûr, elle va prendre des bifurcations très inattendues. Quant au flic, Jean-Marc Osavu, il me semble que c'est un nouveau venu dans l'œuvre de Otiemi, mais je ne les ai pas tous lus. Et ce flic-là, on prendra vraiment un grand plaisir à le retrouver. Tu ne perds rien pour attendre, de Janis Otiemi, paru dans la toute nouvelle collection 109 de chez Plomb. On se retrouve donc à Lyon, en quelque sorte, juste après les informations.